Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 28 Hordad, 1401 du calendrier iranien, 18 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information et un commentaire politique. L'Iran a informé l'AIEA des travaux de construction à Natanz. L'AIEA est pleinement au courant des activités de l'Iran dans le complexe de Natanz. Les États-Unis envisagent d'étendre leur base militaire en Syrie. Les États-Unis ont assassiné le général Soleimani pour protéger leurs ressources et forces dans la région, a déclaré Mike Pompeo. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique était parfaitement au courant des activités de l'Iran au complexe nucléaire de Natanz. En réaction à certains reportages des médias occidentaux sur les activités de construction de l'Iran autour du site de Natanz, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré « Bien que l'Iran n'ait aucune obligation de fournir des informations au-delà des garanties de l'agence », il a informé l'AIEA depuis le début des mesures de construction pour relocaliser les activités de l'usine de carrage TESA autour du site de Natanz. Cette décision vise à accroître la protection des installations nucléaires pacifiques de l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique en a été informée, a-t-il ajouté. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les États-Unis seraient en train d'étendre leurs bases militaires en Syrie en les renforçant avec des systèmes de défense aérienne. L'agence de presse russe Sputnik a annoncé que les États-Unis délocalisaient les convois militaires dans l'est de la Syrie, lançant des systèmes radars modernes sur des bases déjà construites dans cette région. L'agence, citant des sources locales, affirme également que les forces américaines utilisent des entrepôts de céréales dans le nord comme point de contrôle et pour conserver du matériel militaire. Les États-Unis maintiennent leur présence en Syrie malgré la forte opposition du gouvernement de Damas. La Syrie affirme que les États-Unis pillent ses ressources sous prétexte de lutter contre le terrorisme. La Syrie s'oppose également à la présence de la Turquie sur son sol, alors qu'Ankara a récemment annoncé des plans pour une opération militaire dans le nord de la Syrie. Ankara prétend qu'elle vise à éliminer les groupes kurdes qu'elle considère comme terroristes. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que la raison pour laquelle son pays avait assassiné le général iranien Qassem Soleimani était de protéger les ressources américaines. Pompeo parlait avec la chaîne d'information saoudien Al-Arabiya. Il a déclaré que les États-Unis avaient tué le général Soleimani pour protéger ses actifs en Irak, ses forces en Syrie et en fait les Américains du monde entier. Pompeo a ajouté que l'assassinat était l'occasion d'arrêter ce qu'il a appelé une attaque imminente contre les positions américaines. Le général Soleimani était le commandant de la force ROTS, du corps des gardiens de la révolution islamique, et a été tué en janvier 2020. Mike Pompeo a ajouté que Washington surveillait les activités de la force ROTS. Il a également affirmé que l'Iran avait déjà averti qu'il y aurait une guerre si Washington se retirait de l'accord de 2015, déplaçait son ambassade à Tel Aviv et à Rots et tuait Soleimani. Deux personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture piégée devant un temple sikh de la capitale afghane samedi et au cours de l'opération de sécurité qui a suivi, ont déclaré les talibans au pouvoir à Kaboul. Un responsable des talibans a déclaré que la voiture piégée avait explosé avant d'atteindre sa cible après avoir été interceptée par les forces de sécurité. Un porte-parole de la police de Kaboul a déclaré que l'attaque avait fait deux morts, un fidèle sikh tué par l'explosion, ainsi qu'un taliban au cours de l'opération de sécurisation. Sept personnes ont été blessées. Quelques minutes après l'attaque, une voiture piégée a explosé à proximité du temple sans faire de victimes, a également indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdelnafi Takor. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire correspond à celui du groupe terroriste Daesh, qui s'en prend régulièrement aux minorités religieuses en Afghanistan. Vendredi, un attentat à la bombe a frappé une mosquée dans la province de Kunduz, au nord du pays, faisant un mort et sept blessés. Le nombre d'attentats visant souvent des communautés religieuses minoritaires a diminué dans le pays depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Mais une série d'attaques à la bombe, dans lesquelles des dizaines de personnes ont trouvé la mort, a frappé le pays fin avril, pendant le mois de Ramadan, puis fin mai. Et enfin, un politicien kurde indépendant, Osman Hassan Pacha, affirme que la région autonome du Kurdistan irakien, située dans le nord du pays, fait passer du pétrole en contrebande vers la Palestine occupée. Pacha affirme que la contrebande se déroule sous la supervision des autorités de la région autonome du Kurdistan irakien. Il dit que la Turquie offre son soutien car ses ports accueillent les trois pétroliers impliqués dans l'activité illégale. Selon le politicien kurde, 40 000 à 80 000 barils de pétrole sont passés en contrebande en Palestine occupée chaque semaine. Il a appelé le gouvernement central de Bagdad à s'enquêter sur cette affaire. Pacha note que la contrebande a lieu au moment où les habitants de la région autonome du Kurdistan irakien sont confrontés à une grave crise du carburant. We'll be right back. La République islamique d'Iran a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, de son projet de délocaliser les activités du complexe TESA de Karaj vers la ville de Natanz, a déclaré mercredi le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Dans une interview avec Nour News, Behrouz Kamalvandi a déclaré que la décision avait été prise pour intensifier les mesures de sécurité autour des installations nucléaires iraniennes. Se référant au sabotage de l'année dernière au complexe TESA, il a déclaré que le transfert de certaines des activités vers une zone proche du site nucléaire de Natanz vise à empêcher la répétition de telles attaques. Le complexe de Karaj, près de Téhéran, a été victime d'un sabotage en juin 2021 que les autorités ont imputé à Israël. L'attaque a endommagé des caméras de surveillance sur le site. En réponse aux informations diffusées par les médias occidentaux sur les activités de construction près du site nucléaire de Natanz, Behrouz Kamalvandi a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique en avait été informée, même si l'Iran n'avait aucune obligation de fournir de telles informations à l'agence. Un article paru jeudi dans le New York Times, citant des responsables du renseignement israélien et américain anonyme, a déclaré que l'Iran creusait un vaste réseau de tunnels au sud du site nucléaire de Natanz. Le rapport indique que les responsables de l'administration Biden suivent la construction de la nouvelle installation depuis plus d'un an, mais ne sont pas particulièrement alarmés. Behrouz Kamalvandi a déclaré que la République islamique d'Iran n'a aucune obligation de garantie d'informer l'Agence internationale de l'énergie atomique de ses activités visant à renforcer les capacités de défense passive de ses installations nucléaires et à établir des ateliers souterrains pour déplacer certaines activités vers de nouveaux sites, mais il a quand même notifié à l'agence toutes ces mesures. Il a décrit les actions de la République islamique d'Iran comme pleinement transparentes et a fustigé les médias affiliés à Israël pour avoir créé une fausse atmosphère autour du programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran. Il a également dénoncé l'agence nucléaire de l'Organisation des Nations Unies pour ne pas avoir rempli son mandat technique et ne pas avoir condamné les actes terroristes contre les installations nucléaires iraniennes. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a effectué un voyage éclair en Israël où il a rencontré de hauts responsables du régime sioniste, dont le premier ministre Naftali Bennett. Ces développements peu recommandables n'ont fait que compliquer les efforts pour relancer l'accord nucléaire de 2015 au milieu des pourparlers au point mort à Vienne. Plus tôt vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a réaffirmé l'engagement de son pays dans des pourparlers axés sur les résultats, tout en appelant les États-Unis à abandonner leur folie des sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également exhorté l'Agence internationale de l'énergie atomique à se concentrer sur les tâches techniques au lieu d'adopter une approche politisée. Mercredi dernier, Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, avait conseillé au chef de l'agence nucléaire de l'ONU de s'abstenir de compliquer la situation par des déclarations politiques. L'avertissement est intervenu après que Raphaël Grossi a appelé la République islamique d'Iran à reprendre les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 avant que les choses ne deviennent beaucoup plus problématiques.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 17 juin 2022. Alors que les pourparlers de relance de l'accord nucléaire de 2015 sont pratiquement dans l'impasse, la République islamique d'Iran a multiplié ces derniers temps des échanges diplomatiques et signé des accords de coopération avec plusieurs pays indépendants et pays, en effet, de l'Est. Dans ce contexte, le président turkmène a été reçu mercredi par le leader de la révolution islamique sur fond de l'ouverture du corridor nord-sud reliant d'une part l'Iran à la Russie et d'autre part à l'Inde. Lors de cette rencontre, l'Ayatollah Khamenei a réitéré la politique iranienne du rapprochement avec l'Est. À noter que l'Iran, la Russie et l'Inde ont tout récemment inauguré une nouvelle route maritime pour contrer les pressions américaines et les sanctions occidentales. Ce corridor devrait permettre à l'Inde de recevoir toutes sortes de marchandises de la Russie, y compris du gaz et du pétrole. Et quant à la République islamique d'Iran, en effet, elle va profiter des taxes prélevées sur les transits sur son territoire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur cette politique iranienne du rapprochement avec l'Est et plus particulièrement sur l'ouverture de ce corridor stratégique nord-sud qui, selon de nombreux observateurs, en effet, pourrait alimenter l'économie mondiale, contrer les pressions américaines, les sanctions occidentales et bien entendu le rôle primordial de la République islamique d'Iran dans cette nouvelle route maritime. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Décidément, la malédiction pro-Occident s'efface. À peine trois jours après l'annonce officieuse de la mort du PGAC, l'Iran connaît un boom, marqué par un radical virage à l'Est. Ainsi, Amaduro, qui est venu à Téhéran pour signer un pacte de 20 ans, a succédé le ministre pakistanais des Affaires étrangères, lui aussi prêt à signer un pacte avec les Iraniens. Quant aux talibans, ils viennent d'envoyer en Iran une délégation pour des accords à venir. Le président turkmène a été reçu ce mercredi par le leader de la révolution islamique sur fond de l'ouverture du corridor nord-sud reliant l'Iran d'une part à la Russie et de l'autre, à l'Inde et demain à l'OSCE. L'Iran tiendra la vedette. Lors d'une rencontre mercredi 15 juin avec le président turkmène, Serdar Berdimuhamedov, en visite à Téhéran, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei a réitéré la politique iranienne du rapprochement avec l'Est. Le leader de la révolution islamique a salué la politique du gouvernement iranien d'élargir les relations avec les pays amis et voisins. L'Iran a élargi sa coopération économique et énergétique avec le Turkménistan depuis le début du mandat du président Ebrahim Raisi. Le Turkménistan s'est également montré favorable à un transit accru de marchandises entre l'Iran et les pays d'Asie centrale via son territoire. La République islamique d'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international nord-sud. L'Organisation iranienne de la navigation maritime a accueilli un transit pilote de fret entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international qui traverse le territoire iranien. Un responsable iranien basé à Astrakhan, en Russie, a déclaré lundi 13 juin que la cargaison contenant deux conteneurs de 40 pieds de produits en bois avait commencé son voyage depuis Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Russie, et serait déchargée au port indien de Navacheva via le territoire de la République islamique d'Iran en moins de 25 jours. La République islamique d'Iran espère pouvoir bénéficier des droits de transit d'un commerce croissant entre la Russie et l'Inde, qui a été causé par la guerre en Ukraine, et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou. La responsable iranienne affirme que le transport intégré de marchandises de la Russie et de la Biélorussie vers l'Inde développera les expéditions via le corridor de transport international nord-sud et augmentera les revenus de transit de la République islamique d'Iran.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, et depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste. M. Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci pour cette sympathique invitation.
Monsieur Dupré, comme vous savez, alors, ces derniers mois ont été marqués par un essor dans les relations, notamment commerciales et économiques, entre l'Iran et les pays de l'Est et les pays indépendants en général. Et dans une audience tout récemment, accordée mercredi au président turkmène, le leader de la révolution islamique a réitéré la politique de principe iranienne du rapprochement avec l'Est. Quelle est l'importance, dans le contexte actuel des évolutions de la région et des évolutions internationales, quelle est l'importance géopolitique et économique de ce rapprochement de l'Iran avec les pays de l'Est, les pays d'Asie centrale, d'Eurasie et des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai?
Mais je crois que c'est une initiative absolument capitale, puisque il faut vraiment se rendre compte qu'en ce qui concerne le blocage aujourd'hui constatable à Vienne, la responsabilité en incombe exclusivement aux États-Unis, qui ont absolument détourné l'Agence internationale de l'énergie atomique de ses principes, de ses buts et de ses missions pour en faire une espèce de tribune anti-iranienne. Donc il était normal que l'Iran, qui s'est jusqu'à présent montré un partenaire sérieux et crédible, lorsque l'Iran est revenu à la table des négociations, c'était pour obtenir un accord sérieux, équilibré et durable. On ne peut évidemment guère en dire autant des États-Unis. Dans ces conditions, il est normal que l'Iran cherche d'autres débouchés dans ses relations internationales. Alors, en termes d'importance, évidemment que se rapprocher de l'Est, c'est une bonne carte économique. L'axe central de l'économie mondiale s'est déplacé clairement de la zone Atlantique Nord, c'est ce qu'on appelait familièrement l'Occident, c'est-à-dire l'Europe du Nord-Est et l'Amérique du Nord, et s'est déplacé cet axe sur la zone Pacifique, à la faveur notamment de l'impressionnante croissance de l'économie chinoise. Il est donc tout à fait normal dans ces conditions que l'Iran recalibre ses relations économiques internationales pour obtenir les meilleures opportunités. De surcroît, je crois quand même qu'il faut se rendre compte que le contexte dans lequel on reprit ces négociations à Vienne, le contexte international, il a profondément évolué en un an et demi. C'est très évident. Si je lis le dernier rapport du FMI, le FMI n'est pas, si vous voulez, un club d'économistes hétérodoxes. Donc c'est vraiment la pensée officielle occidentale. Que dit le FMI ? Le FMI redoute, mais en même temps relève, la possibilité d'une certaine forme de dislocation de l'économie mondiale qui s'orienterait vers une série de blocs, un bloc occidental d'un côté, donc deux grands blocs, et un bloc sino-russe de l'autre. Ce rapport a été suivi d'ailleurs, sans qu'il y ait vraiment de relation de cause à effet, mais on est là sur la même séquence historique, il y a eu des menaces très claires des États-Unis qui ont dit que la Chine ne pouvait pas choisir le mauvais côté de l'histoire, et bien entendu, Pékin n'a eu cure, n'en a eu cure. Donc vraiment, on voit ça. Donc il est très clair qu'à partir du moment où les Occidentaux ne jouent pas franc jeu, ne jouent pas carte sur table avec l'Iran, il est normal d'un point de vue économique que l'Iran se tourne vers l'Est. Par ailleurs, c'est dans l'ordre des choses depuis l'éclatement du conflit en Ukraine. Il va de soi que la confiance aujourd'hui entre les dirigeants occidentaux et le Kremlin, entre Moscou et les Occidentaux, eh bien, ce climat de confiance est quasiment nul aujourd'hui. Depuis notamment le voyage du président Macron à Kiev, voilà, jusqu'à présent, on parlait de renouer de la confiance, de créer du dialogue malgré tout avec la Russie. Aujourd'hui, on voit clairement un alignement sur des positions bellicistes des États-Unis. Dans ces conditions, le transport de marchandises et la destination même des marchandises russes sera de moins en moins occidentale, ou en tout cas, elle sera nettement moins qu'aujourd'hui. Et donc, ça crée des opportunités, notamment liées à des revenus de transit pour l'Iran. Donc, au total, je ne peux dire qu'une chose, c'est que ces rapprochements s'inscrivent, je crois, dans les opportunités économiques du monde d'aujourd'hui et par ailleurs dans des structures, des relations de pouvoir de bloc à bloc qui semblent s'installer depuis un an et demi. Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas l'opportunisme qui, d'après moi, guide la République islamique d'Iran, mais une série de principes qui ont été affirmés dès la révolution islamique de 1979. C'est pourquoi l'Iran a joui aujourd'hui de très bonnes relations avec des États souverains qui ont affirmé leur souveraineté face aux États-Unis, notamment, je pense notamment à Cuba et aussi évidemment au Venezuela, une autre grande puissance pétrolière. Donc aujourd'hui, c'est clair, si vous voulez, ce réalignement-là est dans l'ordre des choses et il correspond à la volonté d'instaurer un monde multipolaire dans lequel il n'y aura pas d'un côté les États-Unis et puis un deuxième cercle qui serait les pays occidentaux du Nord et puis un immense troisième cercle de pays complètement périphériques, voire dans certains cas marginalisés. L'ordre multipolaire pour lequel milite la République islamique d'Iran est un ordre international dans lequel des souverainetés s'exercent entre pays égaux. Il est grand temps que les Occidentaux le comprennent.
Merci infiniment pour ces précisions pertinentes. Monsieur Dupré, restez avec nous, s'il vous plaît. Alors, on va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Nicolas Pardé. Bonjour à votre ami, Monsieur Dupré, et à vos auditeurs.
Monsieur le professeur, Monsieur Dupré a, à juste titre, souligner l'importance de ce rapprochement de l'Iran avec l'Est, de cette politique de réalignement, en effet, de cette carte économique dans le contexte actuel des évolutions régionales et internationales. Et justement, dans le cadre de cette politique de rapprochement avec l'Est, alors une nouvelle route maritime a été inaugurée entre l'Iran, la Russie et l'Inde, ce fameux corridor nord-sud. Dans quelle mesure, monsieur le professeur, l'inauguration de ce corridor pourrait contribuer à l'instauration, comme disait monsieur Dupré, d'un ordre multipolaire, d'autant plus que ce corridor permettrait bien entendu non seulement de contrer les sanctions occidentales, mais aussi d'alimenter l'économie mondiale.
C'est-à-dire que ce corridor serait en réalité une sorte de stabilisation de l'économie et par là même éviterait des chantages de toutes sortes. Je crois en effet que c'est ainsi qu'il faut voir la situation nouvelle. Et de ce côté-là, disons, c'est un. Je dirais dans ce contexte bellique mondial aujourd'hui, c'est une sorte d'apaisement en réalité. C'est-à-dire que la carte. De la crise économique, la carte du président de la futuriste du Turkménistan, je crois que l'Iran aussi est engagé dans une relation, je dirais personnelle, enfin historique, nouvelle, avec ces pays qui avaient été bloqués par l'Union soviétique, etc. Et je crois que c'est très important, et je dirais pas un seul mot, que ceci corrige un peu, j'aime beaucoup, la politique suivie depuis très longtemps, depuis 1813, qu'on appelle le traité de Golestan, qui a été, vous savez, imposé par la Russie, mais avec l'appui de l'Angleterre. Je crois que cette politique-là est effacée avec cette nouvelle coopération. L'Iran n'a pas à craindre une agressivité de la Russie. La Russie a besoin de l'Iran, comme tous les pays de l'Est, finalement, ont besoin d'une sorte de fraternité et de coopération. Est-ce que l'Occident sera trouvé, disons, une situation analogue? Ceci dépend, à mon avis, de la résolution de la crise européenne depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire la signature de notre traité de paix qui n'a jamais été, mise en œuvre ici en 1945. Bon, je crois que cette nouvelle perspective offerte à l'Iran va changer, la conscience que les Iraniens ont d'eux-mêmes et du rôle qu'ils peuvent jouer. C'est très important pour la nouvelle génération. Et je ne vois pas de perspective efface. Au contraire, je vois, disons, une occasion d'apaisement pour les conflits.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Dupré, selon de nombreux observateurs et économistes, l'intérêt commercial pour cette nouvelle route maritime va croître rapidement. Quelle est l'importance du rôle et du positionnement de la République islamique d'Iran dans cette nouvelle route maritime, dans ce corridor nord-sud?
Alors, la place de la République islamique d'Iran dans ce corridor nord-sud est évidemment tout à fait stratégique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est bien connu que les États-Unis ayant succédé aux Britanniques dans la fonction hégémonique jusqu'à présent, dans les relations internationales, il faut savoir que ce sont des puissances maritimes. Donc, tant le Royaume-Uni, enfin l'Empire britannique, que les États-Unis, jusqu'à nos jours, exercent leur puissance en projetant cette dernière par-delà les mers. Rien n'a changé de ce point de vue. On constate très clairement aujourd'hui que les États-Unis cherchent clairement à couper, en cas de montée des conflits, l'approvisionnement de la Chine via la mer de Chine méridionale, de couper l'approvisionnement de la Chine donc en matières premières, en ressources énergétiques et en nourriture. Donc il y a là une menace stratégique qui est tout à fait qui est exercée de manière tout à fait évidente et sans passer mal l'expression, prendre de gants. Dans ces conditions, il est important qu'un maillage de voies de communication. Et lorsque je parle de voies de communication, c'est de voies de communication multimodales, donc par terre, par air et par mer. Il faut vraiment envisager le transport des marchandises dans sa globalité. Bien, il est important que des voies de communication alternatives puissent se développer. C'est tout à fait vital pour l'existence même de ce noyau d'un monde multipolaire alternatif au monopole hégémonique des États-Unis. Dans ces conditions, l'Iran, de par sa situation géographique, est absolument central, puisque en fait c'est le trait d'union via l'Asie centrale entre la puissance russe au nord et le sous-ensemble indien, Inde-Pakistan, qui se trouve un peu plus à l'est. Donc là, il y a un positionnement géographique clair. Il n'y a pas que la géographie, il y a aussi une tradition d'autonomie iranienne, d'affirmation d'une souveraineté sur le plan stratégique de la part de la République islamique d'Iran et d'une réelle capacité à s'affirmer comme puissance dans le golfe Persique. Donc tous ces éléments-là, évidemment, confèrent à l'Iran un rôle central, et j'ai même envie d'ajouter, de dire plutôt un rôle moteur dans l'établissement de ces nouvelles voies commerciales. Ces nouvelles voies seront par ailleurs tout à fait fondamentales dans le fonctionnement de l'économie mondiale de demain. Je me permettrai simplement de rappeler un seul chiffre, il ne faut pas noyer nos téléspectateurs, nos auditeurs par des chiffres, mais le montant des réserves de la Chine aujourd'hui, la République populaire de Chine, c'est plus de 3 000 milliards de dollars. Il est évident que les pays qui permettront à une telle puissance de s'autonomiser des volontés de contrôle hégémonique de la part des États-Unis, eh bien, ces pays-là, évidemment, bénéficieront d'une manne d'investissement. Et ce n'est pas de ma part, si vous voulez, faire preuve d'un grand sens prospectif, puisque dès aujourd'hui, il y a déjà plus d'un an, il y a eu des accords commerciaux stratégiques qui ont été convenus entre la République islamique d'Iran d'une part et la République populaire de Chine d'autre part. Donc l'avenir est à ce type de construction et d'aménagement. Et l'Iran occupe effectivement une position centrale. J'ajouterai également ceci, c'est que, évidemment, le fait que régulièrement on note une intensification du développement des relations entre l'Iran et l'Afghanistan d'autre part, cela contribue à une restabilisation de la région, comme le disait auparavant moi, le professeur Dortiguier. Et donc, de ce point de vue, évidemment, cela permet, cela donne encore davantage à la République islamique d'Iran une position centrale. Merci. Dans l'établissement de ce noyau de grande puissance.
Merci encore, Monsieur Dupré. Une toute dernière question à Monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, donc, alors, la Chine est également incluse, bien sûr, dans ce camp qui est constitué par les grands producteurs de pétrole, y compris l'Iran et la Russie. Dans quelle mesure, alors, cet alignement, cette alliance, en effet, pourrait constituer, représenter un danger pour les États-Unis et leurs besoins, notamment énergétiques?
Je dirais que pour les États-Unis, ceci incline à une sorte d'isolationnisme, c'est-à-dire de position qui devrait leur être naturelle, qui a été, disons, rompue ou brisée pendant la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est ce vers quoi les États-Unis recouvreront du reste l'énergie interne, sociale, économique. Je pense que le rôle de la Chine n'est pas exactement celui de la Russie vis-à-vis des États-Unis, par exemple, ou du monde occidental. Il y a, à cause de la masse monétaire chinoise, il y a des capacités aussi de fabrication à des prix très bas, et donc le marché occidental sera toujours ouvert, de plus en plus ouvert, à l'économie chinoise. C'est pour ça qu'il ne faut pas, disons, identifier Russie et Chine. Ils sont complémentaires, mais ils sont, disons, ils ont une marche, un mécanisme différent. Et il faut que des pays comme l'Iran, je ne vais pas dire Turquie, mais qui sait comment sera le pays dans 20 ans, ont intérêt à ne pas jouer la tenir compte de cette différence et de grandes puissances russes et chinoises dans ce qu'on appelle.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous. Trois jours à peine après l'annonce officieuse de la mort du plan Global Action conjoint, l'Iran connaît un boom marqué par un virage radical vers l'Est. Ainsi, à Maduro, venu à Téhéran pour signer un pacte de 20 ans, a succédé le ministre pakistanais des Affaires étrangères, lui aussi prêt à signer un pacte avec les Iraniens. Quant aux talibans, ils viennent d'envoyer une délégation en Iran pour de futurs accords. Le président turkmène, lui, il a eu une visite à Téhéran où il a été reçu par le leader de la révolution islamique dans le contexte de l'ouverture du corridor nord-sud qui relie l'Iran d'une part à la Russie, d'autre part à l'Inde et demain à l'OSCE. Les projecteurs vont être braqués sur l'Iran. L'Iran et le Turkménistan vont mettre en place un grand centre commercial qui facilitera les liens entre les entreprises des deux pays dans le cadre des efforts visant à approfondir les relations économiques entre les deux voisins. L'Iran a étendu sa coopération économique et énergétique avec le Turkménistan depuis le début du mandat du président Ebrahim Raisi. Le Turkménistan a également montré son soutien à l'augmentation du transit de marchandises entre l'Iran et les pays d'Asie centrale via son territoire. 9 protocoles d'accord ont été signés pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, le commerce, les transports, les investissements, les nouvelles technologies, l'environnement, le sport, l'énergie, la justice, l'éducation, la recherche et le tourisme. De même, l'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international nord-sud. Un responsable iranien basé à Astrakhan, en Russie, a déclaré lundi 13 juin que la cargaison contenant 2 conteneurs de 40 pieds de produits en bois avait commencé son voyage depuis Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Russie, et serait déchargée au port indien de Navacheva, via le territoire de la République islamique d'Iran, en moins de 25 jours. L'Iran espère bénéficier de droits de transit dans le cadre d'un commerce croissant entre la Russie et l'Inde, provoqué par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales subséquentes contre Moscou. Les responsables iraniens affirment que le transport intégré de marchandises de la Russie et de la Biélorussie vers l'Inde permettra d'accroître les expéditions via le corridor de transport international nord-sud et d'augmenter les revenus de transit de la République islamique d'Iran. Activité satellite en flèche que prépare l'Iran. Un porte-parole du ministère iranien de la Défense, Ahmad Hosseini, a déclaré que la République islamique d'Iran prévoyait d'effectuer 2 autres lancements de sa fusée porteuse de satellites développée localement appelée Zoljana. Ahmad Hosseini a déclaré le mercredi 15 juin que 3 lancements du porte-satellite Zoljana étaient à l'ordre du jour du ministère de la Défense, alors qu'un lancement a déjà eu lieu. 2 autres lancements s'effectueront prochainement, a-t-il précisé. Zoljana est un porte-satellite triphasé qui fonctionne au carburant hybride et les performances des différents étages sont examinées et évaluées lors de chaque lancement, a expliqué le responsable. Suite à l'incorporation de la technologie requise et à un fonctionnement réussi, le porte-satellite Zoljana sera capable de mettre des charges utiles pesant jusqu'à 220 kg sur l'orbite à une altitude de 500 km, a souligné le responsable iranien. Le ministère iranien de la Défense a lancé le porte-satellite Zoljana dans l'espace pour la première fois en février 2021, qui a été diffusé en direct sur la télévision d'État. Le porte-satellite mesure 25,5 mètres de long et pèse environ 52 tonnes. Il utilise un moteur de combustible solide d'1,5 mètre de diamètre avec 74 tonnes de poussée. Fin décembre 2020, le ministère iranien de la Défense a annoncé qu'il avait lancé avec succès une fusée porte-satellite de construction nationale nommée Simorgh, envoyant 3 appareils de recherche dans l'espace. Dans cette mission de recherche spatiale, pour la première fois, 3 appareils de recherche ont été lancés simultanément à une altitude de 470 km et à une vitesse de 7350 mètres par seconde, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Ahmad Hosseini. deux attaques au drone contre deux bases américaines en 24 heures en Irak. 24 heures après avoir été frappé à Al-Tanf, les troupes américaines viennent de subir une nouvelle attaque à Erbil. Et aux dernières nouvelles, ce serait la base américaine de Harir qui aurait été visée. Le 16 juin, une frappe de drone a visé la base américaine illégale de Homs dans le centre de la Syrie, située dans le triangle frontalier Syrie-Jordanie-Irak. Le 13 mars, un centre secret du Mossad situé non loin de la base américaine à Harir a été visé par une salve de 12 missiles Fateh 110 des forces iraniennes du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, en représailles à l'attaque d'une base de drones dans l'ouest de l'Iran. L'attaque particulièrement virulente a provoqué la mort de 9 officiers du Mossad, mais la base américaine est restée intacte, les troupes américaines ayant quitté la zone. S'agit-il d'un retour en arrière, autant des attaques contre les bases américaines en Syrie et en Irak? Des sources irakiennes ont rapporté avoir entendu le bruit d'une explosion dans la base américaine de Harir, près d'Erbil. Le vendredi 17 juin, le système de défense aérienne SERAM a été activé à l'intérieur de la base et a commencé à tirer. Il n'a pas encore été déterminé si la base a été attaquée ou si un exercice militaire a eu lieu. Le gouverneur du district de Harir à Erbil a affirmé que l'activation des systèmes de défense aérienne était due à des manœuvres. Dotée de missiles et de radars avancés et d'avions de chasse, la base de Harir est située dans le district de Charlava, à 75 km à l'est d'Erbil, et la base américaine la plus proche de la frontière iranienne, distante d'environ 115 km. L'activation des défenses aériennes américaines sur la base de Harir intervient alors que les convois logistiques de la coalition américaine sont attaqués par des bombes en bord de route plusieurs fois par semaine, voire par jour. Pour rappel, la base d'Ain al-Assad, autre base américaine importante, a été visée par 6 roquettes de 122 mm le 31 mai dernier. En outre, le 13 mars 2022, un drone a visé la base de Harir. Manœuvre militaire, préparatif au combat. Nouveau round commence. Bien qu'Israël ait fait de son mieux pour se préserver des menaces croissantes de l'axe de la résistance, en particulier de la résistance palestinienne, en recourant à la guerre psychologique comme l'extension de la détention en Cisjordanie et l'organisation de diverses manœuvres, la vigilance et les nouvelles mesures de la résistance palestinienne ont non seulement contrecarré les plans d'Israël, mais ont également renforcé son pouvoir de dissuasion contre le régime sioniste. Les groupes de la résistance palestinienne ont tenu une réunion extraordinaire cette semaine, ce qui constitue une étape importante dans la lutte contre les actions israéliennes et met clairement en évidence la cohésion et l'unité des groupes de la résistance palestinienne. Au cours de la réunion extraordinaire, les groupes de résistance ont discuté des développements sur le terrain, de l'agression israélienne contre le peuple palestinien, des lieux saints dans les territoires occupés ainsi que de la condition des prisonniers palestiniens, en particulier ceux en grève de la faim. Dans la déclaration finale de la réunion, les groupes de résistance palestiniens, soulignant le droit légitime du peuple palestinien à défendre ses droits, ont également affirmé leur soutien continu à cette nation. Toutes les actions entreprises par la résistance palestinienne ces derniers jours s'inscrivent dans la continuité de la même dissuasion qui a été créée depuis la bataille de l'épée de Rotz et qui s'amplifie chaque jour. Les récentes actions coordonnées et précises de la résistance palestinienne montrent sa vigilance et le renforcement de son pouvoir de dissuasion face aux actions du régime sioniste. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.